La semence, et il nous est dit ici que c'est la parole de Dieu, l'évangile. Et seul l'évangile sauve. Et rien que l'évangile sauve. Et rien de moins que l'évangile sauve. Le problème est avec le terrain. Et le terrain, c'est le cœur. Regardez au verset 12, il dit « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Au verset 15, il répète un peu la même chose. « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. » La manière dont nous écoutons révèle notre condition spirituelle. La manière dont nous écoutons révèle notre condition, notre état spirituel. La grande foule a entendu la parabole, mais seulement les disciples l'interrogent. Vous avez vu, verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Et là, on voit ceux qui ont des oreilles et ceux qui n'en ont pas. Ce sont les disciples qui ont des oreilles. Nous voulons savoir. Nous croyons que Dieu t'a envoyé pour nous parler. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut connaître, on veut comprendre. Est-ce qu'il y a ce désir dans votre cœur? C'est ce que j'aimerais que l'on puisse considérer ce matin. Et je vous propose trois tests. J'ai mis ça des tests auditifs. Parce que depuis quelque temps, on reçoit des messages où on nous propose des tests auditifs gratuits. Vous voyez? Ceux qui n'ont pas atteint notre âge ne savent pas de quoi je parle, mais à partir de certain âge, on reçoit de la pub de Audica, les tests auditifs. Et je vous propose trois tests. On va d'abord voir le test du fruit, on verra ensuite le test de la lampe et enfin le test de la famille. Regardons tout d'abord dans les versets 9 à 15 l'explication de la parabole et le test du fruit. On trouve ici quatre terrains. Quatre terrains différents, représentant chacun l'attitude du cœur qui entend l'évangile, la parole. Tous les terrains reçoivent la semence, d'accord? Tous entendent l'évangile. Mais un seul porte du fruit, et c'est ce qui le distingue des autres. Au verset 12, on trouve comme premier terrain le chemin. La semence est piétinée et puis elle est enlevée par le diable de peur qu'il ne croie et soit sauvé. Le diable vient voler ce qui a été semé dans le cœur de peur que les hommes croient et soient sauvés. Ça signifie qu'on est sauvé par la foi dans l'évangile, la réception de l'évangile dans son cœur. Là, c'est le cœur dur. Vous savez, le chemin, il a été piétiné, piétiné et piétiné. La terre est tassée de telle sorte que le grain, il ne peut jamais entrer, il ne peut jamais pénétrer. Et parfois, il y a des philosophes qui ont piétiné et piétiné nos cœurs. Il y a des idées fausses, il y a toutes sortes de choses qui ont piétiné et piétiné nos cœurs, de sorte que le terrain est dur. Avez-vous déjà croisé des gens comme cela? J'ai l'impression d'en avoir croisé des centaines. Ils sont parfois athées, rejetant tout en bloc sans vraiment y réfléchir. Mais ils sont aussi parfois extrêmement religieux, drapés dans leurs bonnes œuvres. Ils ne supportent pas l'idée même qu'ils ne puissent pas être dans les petits papiers de Dieu. Et tous méprisent le sacrifice de Christ, bien qu'ils en connaissent le récit. Il ne se voit jamais comme l'un des brigands crucifiés pour lequel Jésus meurt. Et puis, verset 13, il y a le roc. C'est le roc, c'est en fait, c'est pas un, le grain ne tombe pas sur le rocher. Il tombe dans une terre qui couvre juste un peu le rocher qui est dessous, de sorte que la semence pénètre rapidement, mais elle ne peut pas développer des racines. Et aux premières chaleurs, elle sèche et meurt. Ils reçoivent la parole avec joie. Ils croient même, mais remarquez que c'est pour un temps seulement qu'ils croient. C'est le cœur qui est superficiel au fond. Il est souvent attiré par autre chose que la justice de Dieu. Dans les béatitudes, Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'ils seront rassasiés ». Si vous êtes venus avec un désir dans votre cœur, j'ai soif de la justice de Dieu. J'ai besoin de justice, je suis dépourvu en justice. Alors vous pouvez être sûr d'une chose, quand vous venez à Christ dans un état comme celui-ci, vous serez rassasiés, vos cœurs seront rassasiés. Mais ici, eux, ils veulent seulement une vie meilleure. Ils veulent, ouais, le bon côté de... J'ai rencontré aussi pas mal de gens comme ça. Ils aiment beaucoup la joie des églises baptistes. Dans les églises baptistes, c'est sympa, c'est convivial, c'est fraternel. Puis, il y a ceux qui ont besoin d'appartenir à un groupe. Ils veulent, voilà, faire partie du groupe. Mais ils ne sont pas attirés par la justice, par un réel besoin de voir leurs péchés effacés et d'être réconciliés avec Dieu. Alors, dès que le test des difficultés arrive, ils succombent. Ils abandonnent. Ils étaient venus chercher une vie plus facile, et puis voilà des épreuves. Alors ils s'en écartent, ils se dessèchent, avant de porter le moindre fruit. Et puis au verset 14, troisième terrain, ce sont les épines. La semence tombe dans une bonne terre, mais la terre est déjà occupée par tout un tas de choses. Le cœur est rempli de toute autre chose. La semence lève, mais elle est vite étouffée par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. Le cœur préoccupé par les choses de ce monde. Ils ont reçu la parole, mais ils ont laissé les choses de ce monde étouffer ce qu'ils ont entendu. C'est fréquent aussi, cette attitude de cœur. Ils ne portent pas de fruits à maturité. Vous vous souvenez, ce jeune homme riche qui est venu devant Jésus. « Oh Seigneur, bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Le Seigneur lui rappelle un certain nombre des 10 commandements. Et puis il dit, oh, j'ai tout fait ça depuis mon enfance. Le Seigneur qui sait exactement ce qu'il y a dans son cœur, il lui dit, écoute, vends tout. Vends tout ce que tu as, vends tous tes biens. Donne-les aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis après tu viens et tu me suis. Et là, le jeune homme repart tout triste. Pourquoi ? Parce qu'il avait de grands biens. C'est-à-dire son cœur était attaché, était rempli d'amour pour les richesses. Plus que pour les richesses éternelles, plus que pour Dieu. Dieu n'est pas contre les richesses. Le problème n'est pas avec les richesses. En Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes les choses dont on peut avoir besoin, toutes les richesses dont on peut avoir besoin, vous seront données par-dessus. Par-dessus quoi ? Mais par-dessus le royaume et la justice. Par-dessus le salut, par-dessus l'évangile. Quand on accepte Christ, c'est parce que l'évangile est meilleur, il est plus grand. plus beau que tout ce que le monde peut nous offrir. Et puis, quatrième terrain, c'est la bonne terre, verset 15, il dit que c'est un cœur honnête et bon. C'est-à-dire, c'est un cœur simplement authentique. Il n'y a pas de faux semblant. Il se laisse pénétrer par la semence, par la parole. Cette fois, la parole est retenue et il porte du fruit au centuple. Waouh ! Voyez-vous, quand vous semez et que vous récoltez 10 fois plus que ce que vous avez semé, déjà vous êtes content. Et quand les proportions atteignent 20, 30, 40%, c'est extraordinaire. Ici, le Seigneur parle de centuple, 100 fois plus. C'est incommensurable. La grâce de Dieu, quand elle vient dans une vie, elle transforme nos cœurs. Elle change nos vies et elle nous donne l'abondance. Jésus a dit qu'il est venu pour donner la vie à ses brebis et la vie en abondance. Une vie qui merveilleuse. Et puis il dit, porte du fruit avec persévérance. Et ça, c'est un fruit particulier, supplémentaire, qui vient parfaire tous les autres. La persévérance. La vraie foi produit la persévérance. La persévérance au travers des difficultés, au travers des tentations, au milieu des soucis, des épreuves. Ceux-là sont venus parce qu'ils avaient faim et soif de justice, et ils ont été rassasiés. Et quelles que soient les situations de leur vie au quotidien, ils persévèrent dans la foi parce qu'ils ont été nourris, rassasiés pour leur cœur. En 1 Jean chapitre 2, 19, j'aimerais vous lire ce verset. C'est un verset qui m'a éclairé au tout début de ma vie chrétienne, juste après mon baptême. J'étais baptisé avec une jeune femme, le même jour qu'elle, et quelques jours après notre baptême, devant ma porte, il y avait un petit carton avec sa Bible et puis le petit livre qu'elle avait reçu lors de son baptême, c'était « Les trésors de la foi » de Spurgeon. Et avec un petit courrier qui disait « Voilà, je veux plus en entendre parler, je veux plus la Bible, je veux plus rien. » Et ça m'a... Vous imaginez, j'étais tout jeune dans la foi, je venais de me convertir, je venais de me faire baptiser. Et puis, je suis tombé sur ce verset, chapitre 2, verset 19 de la première épître de Jean. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Là, il y a une vérité, c'est que le chrétien, il persévère. La vraie foi chrétienne, elle possède en elle-même ce gène de la persévérance. Oh, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, qu'on n'a pas des chutes. Oh non, on a des chutes, on connaît des chutes. Mais la foi persévère jusqu'au bout. Il y a deux sortes de fruits, rapidement. Il y a des fruits qui tiennent de l'attitude du cœur. Hein, et ça, c'est le fruit de l'esprit. Par exemple, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, ce sont les fruits de l'esprit qui sont portés dans notre attitude. Quand on vient à la foi véritable, on est changé. La semence porte ce genre de fruits. Et chaque croyant doit pouvoir dire, oui, mon attitude a changé. Votre entourage doit pouvoir dire, oh, lui, il a vraiment changé. Dans son attitude, il a changé. C'est plus le même. Et puis, il y a aussi une autre sorte de fruit, c'est les actions. Hein, les bonnes œuvres. Dieu dit qu'il nous a sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Des bonnes œuvres. une transformation de vie, et on ne fait plus les choses que l'on faisait autrefois, et on en fait d'autres, celles qui ont été celles que Dieu veut. Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul prie pour les Philippiens, voici ce qu'il dit, chapitre 1, verset 9, il dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Là, il est en train de prier pour le changement dans l'attitude, des progrès dans le domaine de l'attitude du cœur. Et puis, juste après, il prie au verset 11, « Vous serez riches, pour que vous soyez riches des actions justes, produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Je vous ai cité le verset 11 d'après la Bible en français courant. Il prie pour des actions justes. Dieu recherche ces fruits-là dans nos vies. Changement d'attitude et un changement, et puis des actions justes. Il faut les deux. S'il y a les actions sans l'attitude, alors c'est du légalisme. On fait, mais le cœur n'est pas changé. Et Dieu n'est pas satisfait par cela. Voilà le premier test du fruit. Est-ce que vous portez du fruit ? À l'examen de ces versets, est-ce que vous pouvez dire, dans l'évangile de Luc, il ne parle que de sang, du centuple. Mais dans l'évangile de Marc et de Matthieu, il parle de 30, un grain porte 30, 60, jusqu'à 100 pour un. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire, est-ce qu'il y a un fruit extraordinaire dans votre vie, des vies changées, votre entourage transformé, des croyants qui viennent à la fois par votre témoignage en masse ? Non, est-ce qu'il y a des changements qui se sont produits dans vos cœurs ? Ça, c'est le test, le premier test, le test du fruit. Deuxième test, le test de la lampe. Ça, c'est bien sûr les versets 16 à 18, juste après. Il dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Vous ne pouvez pas garder la lumière de l'évangile cachée. » L'un des tests qui révèle un véritable croyant, c'est qu'il veut partager sa foi. Vous ne pouvez pas avoir saisi la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour vous-même et ne pas la partager avec d'autres. Ça n'est pas possible. Nécessairement, si vous avez connu l'Évangile, alors vous voulez dire ce que Christ a fait pour vous. Alors certains diront, oui, alors mais moi c'est difficile parce que j'ai du mal. Et puis je débute tout juste dans la foi, j'ai encore pas lu la Bible en entier. Si vous savez ce que Christ a fait pour vous, alors vous êtes suffisamment qualifié pour le dire à quelqu'un d'autre. Jésus dit, c'est simplement inconcevable qu'une personne allume une lampe et la couvre d'un vase ou la place sous son lit. C'est dangereux, une lampe sous le lit. C'est-à-dire, ça n'arrive jamais. Il dit, non mais, personne n'allume une lampe pour la mettre sous un vase. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous son lit. Personne. Ça n'arrive jamais non plus qu'une personne reçoive la lumière de l'Évangile, le pardon de ses péchés et la vie éternelle pour seul prix de sa foi en Jésus-Christ et ne le partage avec personne. Il ne dit pas que c'est une chose facile de partager sa foi. Oh non. Mais il nous assure que celui qui ne le fait jamais n'a jamais connu Dieu comme son sauveur. C'est cela qu'il est en train de dire. En Marc chapitre 16, Hein, vous connaissez ces versets, dans les derniers versets de l'évangile de Marc. Il dit, à partir du verset 15, il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ceux qui ne croient pas sont perdus. » D'accord ? La seule chose qui puisse vous perdre, c'est l'incrédulité. Et ceux qui croient et sont baptisés seront sauvés. C'est-à-dire que le véritable croyant s'identifie à son sauveur dans sa mort et dans sa résurrection. Et le baptême, c'est simplement une des nombreuses occasions de le faire. Même dans les pays où les chrétiens sont persécutés, ils ne peuvent se taire. Renseignez-vous, et lisez les journaux portes ouvertes. Dans les pays dominés par l'islam, les gens qui se convertissent témoignent de leur foi. Ils ne peuvent pas garder ce trésor pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se taire. Parfois, leur famille aimerait qu'ils croient en cachette. Écoute, tu crois en Jésus. Bon, d'accord, ça te regarde, mais tu le dis à personne. Tu peux croire ce que tu veux dans ton cœur, d'accord, mais tu dis à personne. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Il faut que ça sorte. Au verset 17, il dit « Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Quand vous acceptez Christ, ça se passe tout seul, entre Christ et vous. Personne ne l'a vu, mais nécessairement quelqu'un doit le voir. Vous devez l'avoir dit à quelqu'un. Les vérités de l'Évangile, de la parole de Dieu, sont faites pour être partagées. Plus on les partage, et plus Dieu nous en révèle d'autres. Regardez verset 18, il dit « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Le test de la lampe. Le test du fruit, le test de la lampe. Est-ce que votre lampe brille ? Et puis, le dernier point, c'est le test de la famille qu'on trouve dans les versets 19 à 21, l'histoire de la mère et les frères de Jésus qui viennent le trouver. Ils ne peuvent pas l'aborder, il y a la foule qui presse Jésus. Alors on lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. » Dans tout notre passage, dans les 21 versets qu'on vient de lire, il est question d'entendre la parole de Dieu. Il est question d'écouter, d'avoir des oreilles pour entendre. Et ici, la mère de Jésus et ses frères, ils veulent le voir. Combien de chrétiens connaissent cela? Les membres de leur famille veulent les voir. Mais pas les entendre, pas les écouter, pas entendre le message qui a changé et bouleversé leur vie. Et vous êtes là, « Oh, ça serait bien qu'on se voit dimanche. Hein? » Et vous êtes travaillé par ça. Si je viens chez eux dimanche, je vais leur parler de ma foi. Et vous êtes de moins en moins invités. Ou alors, on vous fait savoir que vous êtes le bienvenu, mais si vous vous taisez. Et surtout quand il y a des amis ou des... Et là, on réalise qu'il y a un lien qui est différent. Un lien... Oui, un lien qui est... Voilà, qui est supérieur au lien de, si je peux dire, de la famille. Jésus répond verset 21... « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Jésus y montre la prééminence des liens spirituels sur les liens de la chair. ici et dans notre passage, mais un peu plus loin dans Luc chapitre 11. Le Seigneur est en train de parler, c'est au verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité !» Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Waouh ! C'est fort ! Il est en train de dire « Il y a une relation spirituelle qui est plus importante que la relation familiale. Il y a une naissance plus importante que celle de la chair, c'est celle de l'esprit, du lien spirituel. L'une ne renverse pas l'autre. L'une n'annule pas l'autre. Mais elle devient tellement importante. Même si Jésus ne s'est jamais montré insensible aux sentiments de sa famille. Et on n'est jamais invité dans l'évangile à être indifférent à nos familles dans la chair. Au contraire, nous sommes rendus capables de les aimer mieux, avec plus de joie, avec plus de zèle, avec plus de patience, de douceur, avec toute la latitude qui est produite par le Saint-Esprit dans nos cœurs. On est appelé à aimer mieux nos familles. L'un des moments les plus touchants dans l'Évangile, de ce point de vue, c'est ce moment où Jésus est sur la croix et où, juste avant de rendre le dernier souffle, il se soucie de procurer amour et sécurité à sa mère qui est désemparée. Elle est veuve, très certainement, et puis maintenant elle perd son fils. Et Jésus se tourne vers Marie et lui dit « Marie, mère, voilà ton fils », montrant Jean. Et puis il dit « Jean, voilà ta mère ». C'est-à-dire, maintenant vous allez prendre soin l'un de l'autre. Vous allez vous aimer l'un et l'autre. Et je trouve ça tellement touchant de la part de celui qui est suspendu par des clous qui lacèrent son corps tout entier, il pense encore à prendre soin de sa mère. Mais Jésus insiste sur le fait que ceux qui lui sont les plus proches, ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont vraiment accès à lui, qui font vraiment partie de sa famille, sont non les proches selon la chair, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et c'est aussi ce que vivent les croyants. Ils ont une communion et une intimité les uns avec les autres dans l'Église qui dépasse bien souvent les meilleures relations de la chair. On trouve dans les Évangiles ces paroles du Seigneur. Je vous lis en Luc chapitre 14, verset 25. J'ai choisi de lire le verset 25 à cause des grandes foules. C'est exactement le même contexte. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, c'est exactement la même situation. Il y avait les grandes foules et Jésus lui parle des terrains, il parle de la lampe et il parle de la famille. Et il se retourne et il leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez la chose? Il est en train de montrer qu'il y a une autre dimension, une dimension qui est spirituelle, un lien fraternel qui est supérieur à cela. On n'aime pas moins sa famille, on aime mieux sa famille, mais on aime tellement plus le Seigneur et sa famille. Alors voilà trois tests. Le problème, il n'est pas avec la semence, il n'est pas avec celui qui a parlé, il est avec mon cœur. Et je te demande de changer mon cœur. Je veux que cette semence, elle pénètre ma vie et qu'elle produise du fruit en abondance, au centuple. Peut-être vous dites, ah, mais moi c'est le test de la lampe, ouh là là. Est-ce possible que Je n'ai jamais saisi l'évangile véritablement, puisque je ne l'ai jamais partagé à qui que ce soit. C'est sûr. Seigneur, change ma vie. Montre-moi ton évangile. Je veux le comprendre avec force. Je veux mieux m'en saisir. Je veux que cette semence pénètre mon cœur pour que je puisse proclamer au monde la chose. Voyez-vous ? Peut-être quelqu'un dira, mais moi, c'est ma famille. Oh là, dès qu'on parle de ma famille, je suis paniqué. L'idée d'être baptisé avec ma famille, ça va faire un problème. Imaginez une personne issue de l'islam. Je dis, mais ça va être ça va être le tollé général. Si je fais plus ramadan, ça va être terrible. Si. Ça va être terrible. Et puis il y a dans le cœur un moment, dire Seigneur, ce qui est terrible, c'est de ne pas connaître la vie véritable, celle qui est en abondance. C'est de ne pas être sauvé, de ne pas avoir son assurance pour l'éternité. Ça, c'est terrible. C'est plus terrible que tout le reste. Alors je veux m'en saisir. Et je veux partager à ceux qui m'entourent et qui étaient autrefois aussi dans les ténèbres, qui étaient dans les ténèbres ou qui sont encore dans les ténèbres. Je veux leur partager la lumière que tu as fait lever dans ma vie. Le Seigneur nous assiste dans toutes ces choses. Il sait que rien n'est facile. Porter du fruit, témoigner de sa foi, prendre position dans sa propre famille, c'est difficile. C'est difficile. Mais le Seigneur l'a fait, il nous a ouvert la voie, et puis il nous appelle à cette vie-là. Et parce qu'il nous y appelle, alors on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il sera à nos côtés pour nous secourir, nous soutenir, nous encourager et nous permettre de le faire avec assurance et en portant du fruit. Alors je ne sais pas si vous êtes baptisé déjà, mais ça vaudrait vraiment le coup d'y penser maintenant. Si vous n'avez jamais témoigné de votre foi à quelqu'un. Le jour où vous avez témoigné de votre foi à quelqu'un, où vous avez, je parle d'expliquer vraiment l'évangile, alors il y a une joie qui pénètre votre cœur. Et ça, c'est la joie du ciel, c'est-à-dire, vous savez que vous êtes sauvé, vous venez de l'expliquer à quelqu'un, ça devient profond et réel. Alors que Dieu nous assiste.